Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. À nouveau ensemble ce soir pour la suite du roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Elle songeait quelquefois que c'était là pourtant les plus beaux jours de sa vie, la lune de miel, comme on disait. Pour en goûter la douceur, il eût fallu sans doute s'en aller vers ces pays à non sonores, où les lendemains de mariage ont de plus suaves paresses. Dans des chaises de poste, sous des stores de soie bleue, on monte au pas des routes escarpées, écoutant la chanson du postillon qui se répète dans la montagne avec les clochettes des chèvres et le bruit sourd de la cascade. Quand le soleil se couche, on respire au bord des golfes le parfum des citronniers. Puis le soir, sur la terrasse des villas, seul et les doigts confondus, on regarde les étoiles en faisant des projets. Il lui semblait que certains lieux sur la terre devaient produire du bonheur, comme une plante particulière au sol et qui pousse mal tout autre part. Que ne pouvait-elle s'accouder sur le balcon des chalets suisses ou enfermer sa tristesse dans un cottage écossais avec un mari vêtu d'un habit de velours noir à longues basques et qui porte des bottes molles, un chapeau pointu et des manchettes. Peut-être aurait-elle souhaité faire à quelqu'un la confidence de toutes ces choses, mais, comment dire, un insaisissable malaise qui change d'aspect comme les nuées, qui tourbillonne comme le vent. Les mots lui manquaient, donc l'occasion. La hardiesse. Si Charles l'avait voulu, cependant, s'il s'en fût douté, si son regard, une seule fois, fût venu à la rencontre de sa pensée, il lui semblait qu'une abondance subite se serait détachée de son cœur comme tombe la récolte d'un espalier quand on y porte la main. Mais à mesure que se serrait davantage l'intimité de leur vie, un détachement intérieur se faisait, qui la déliait de lui. La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue, et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire, sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. Il n'avait jamais été curieux, disait-il, pendant qu'il habitait Rouen, d'aller voir au théâtre les acteurs de Paris. Il ne savait ni nager, ni faire des armes, ni tirer le pistolet, et il ne put un jour lui expliquer un terme d'équitation qu'elle avait rencontré dans un roman. Un homme, au contraire, ne devait-il pas tout connaître, exceller en des activités multiples, vous initier aux énergies de la passion, au raffinement de la vie, à tous les mystères? Mais il n'enseignait rien, celui-là. Ne savait rien, ne souhaitait rien. Il la croyait heureuse, et elle lui en voulait de ce calme si bien assis, de cette pesanteur sereine, du bonheur même qu'elle lui donnait. Elle dessinait quelquefois, et c'était pour Charles un grand amusement que de rester là, tout debout, à la regarder penchée sur son carton, clignant des yeux afin de mieux voir son ouvrage, ou arrondissant sur un pouce des boulettes de mie de pain. Quant au piano, plus ses doigts y couraient vite, plus il s'émerveillait. Elle frappait sur les touches avec aplomb et parcourait du haut en bas tout le clavier sans s'interrompre. Ainsi, secoué par elle, le vieil instrument dont les cordes frisaient s'entendait jusqu'au bout du village si la fenêtre était ouverte. Et souvent, le clerc de l'huissier qui passait sur la grande route, nu-tête et en chaussons, s'arrêtait à l'écouter, sa feuille de papier à la main. Emma, d'autre part, savait conduire sa maison. Elle envoyait au malade le compte des visites dans des lettres bien tournées qui ne sentaient pas la facture. Quand ils avaient le dimanche quelques voisins à dîner, elle trouvait le moyen d'offrir un plat coquet, s'entendait à poser sur des feuilles de vigne les pyramides de Reine Claude, servait renversées les pots de confiture dans une assiette, et même elle parlait d'acheter des rince-bouche pour le dessert. Il rejaillissait de tout cela beaucoup de considération sur Bovary. Charles finissait par s'estimer davantage de ce qu'il possédait une pareille femme. Il montrait avec orgueil dans la salle deux petits croquis d'elle à la mine de plomb qu'il avait fait encadrer de cadres très larges et suspendus contre le papier de la muraille à de longs cordons verts. Au sortir de la messe, on le voyait sur sa porte avec de belles pantoufles en tapisserie. Il rentrait tard, à 10 heures, minuit quelquefois. Alors il demandait à manger et comme la bonne était couchée, c'était Emma qui le servait. Il retirait sa redingote pour dîner plus à son aise. Il disait les uns après les autres tous les gens qu'il avait rencontrés, les villages où il avait été, les ordonnances qu'il avait écrites, et satisfait de lui-même, il mangeait le reste du miroton, épluchait son fromage, croquait une pomme, vidait sa carafe, puis s'allait mettre au lit, se couchait sur le dos et ronflait. Comme il avait eu longtemps l'habitude du bonnet de coton, son foulard ne lui tenait pas aux oreilles. Aussi ses cheveux, le matin, étaient rabattus pêle-mêle sur sa figure et blanchis par le duvet de son oreiller dont les cordons se dénouaient pendant la nuit. Il portait toujours de fortes bottes qui avaient au coude-pied deux plis épais obliquant vers les chevilles, tandis que le reste de l'empeigne se continuait en ligne droite, tendue comme par un pied de bois. Il disait que c'était bien assez bon pour la campagne. Sa mère l'approuvait en cette économie, car elle le venait voir comme autrefois lorsqu'il y avait eu chez elle quelques bourrasques un peu violentes. Et cependant, Madame Bovary mère semblait prévenue contre sa bru. Elle lui trouvait un genre trop relevé pour leur position de fortune. Le bois, le sucre et la chandelle filaient comme dans une grande maison. Et la quantité de braise qui se brûlait à la cuisine aurait suffi pour 25 plats. Elle rangeait son linge dans des armoires et lui apprenait à surveiller le boucher quand il apportait la viande. Emma recevait ses leçons. Madame Bovary les prodiguait. Et les mots de « ma fille » et de « ma mère » s'échangeaient tout le long du jour, accompagnés d'un petit frémissement des lèvres, chacune lançant des paroles douces d'une voix tremblante de colère. Du temps de Madame Dubuc, la vieille femme se sentait encore la préférée. Mais à présent, l'amour de Charles pour Emma lui semblait une désertion de sa tendresse, un envahissement sur ce qui lui appartenait, et elle observait le bonheur de son fils avec un silence triste, comme quelqu'un de ruiné qui regarde à travers les carreaux des gens attablés dans son ancienne maison. Elle lui rappelait en manière de souvenir ses peines et ses sacrifices, et les comparant aux négligences d'Emma, concluait qu'il n'était point raisonnable de l'adorer d'une façon si exclusive. Charles ne savait que répondre. Il respectait sa mère et il aimait infiniment sa femme. Il considérait le jugement de l'une comme infaillible et cependant il trouvait l'autre irréprochable. Quand Madame Bovary était partie, il essayait de hasarder timidement et dans les mêmes termes, une ou deux des plus anodines observations qu'il avait entendu faire à sa maman. Emma, lui prouvant d'un mot qu'il se trompait, le renvoyait à ses malades. Cependant, d'après les théories qu'elle croyait bonnes, elle voulut se donner de l'amour. Au clair de lune, dans le jardin, elle récitait tout ce qu'elle savait par cœur de rimes passionnées et lui chantait en soupirant des adagios mélancoliques. Mais elle se trouvait ensuite aussi calme qu'auparavant. Et Charles n'en paraissait ni plus amoureux, ni plus remué. Quand elle eut ainsi un peu battu le briquet sur son cœur, sans faire jaillir une étincelle, incapable du reste de comprendre ce qu'elle n'éprouvait pas, comme de croire à tout ce qui ne se manifestait point par des formes convenues, elle se persuada sans peine que la passion de Charles n'avait plus rien d'exorbitant. Ses expansions étaient devenues régulières, il l'embrassait à certaines heures. C'était une habitude parmi les autres et comme un dessert prévu d'avance après la monotonie du dîner. Un garde-chasse, guéri par monsieur d'une fluxion de poitrine, avait donné à madame une petite levrette d'Italie. Elle la prenait pour se promener car elle sortait quelquefois afin d'être seule un instant et de n'avoir plus sous les yeux l'éternel jardin avec la route poudreuse. Elle allait jusqu'à la hêtraie de Banneville, près du pavillon abandonné qui faisait l'angle du mur du côté des champs. Il y a là, dans le seau de loup parmi les herbes, de longs roseaux à feuilles coupantes. Elle commençait par regarder tout alentour pour voir si rien n'avait changé depuis la dernière fois qu'elle était venue. Elle retrouvait aux mêmes places les digitales et les ravenelles, les bouquets d'orties entourant les gros cailloux et les plaques de lichen le long des trois fenêtres dont les volets toujours clos s'égrenaient de pourriture sur leurs barres de fer rouillées. Sa pensée sans but d'abord vagabondait au hasard, comme sa levrette, qui faisait des cercles dans la campagne, jappait après les papillons jaunes, donnait la chasse aux musaraignes en mordillant les coquelicots sur le bord d'une pièce de blé. Puis, ses idées peu à peu se fixaient, et assise sur le gazon qu'elle fouillait à petits coups avec le bout de son ombrelle, Emma se répétait « Pourquoi, mon Dieu, me suis-je mariée ?»
De ce que fut mon enfance, je n'ai plus de souvenirs. C'est peut-être que la chance ne m'offrit pas de plaisir. Et chaque jour qui se lève ne m'apporte aucun espoir. Je n'ai même pas de rêve quand luit l'étoile du soir. Moi, je m'ennuie. C'est dans ma vie une manie, je n'y peux rien. Le plaisir passe, il me dépasse. En moi, sa trace ne laisse rien. Partout je traîne comme une chaîne, ma lourde peine. Sans autre bien, c'est dans ma vie une manie. Moi, je m'ennuie. Vagabondage, j'ai voulu griser mon cœur, et souvent sur mon passage, j'ai vu naître des malheurs. Sur chaque nouvelle route, à l'amour j'ai dû mentir, et le soir lorsque j'écoute la plainte du vent mourir, moi je m'ennuie, c'est dans ma vie une manie, je n'y peux rien. Le plaisir passe, il me dépasse, en moi sa trace ne laisse rien. Partout je traîne comme une chaîne, ma lourde peine sans autre bien. C'est dans ma vie une manie, moi je m'ennuie.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Retour à la suite du roman de Flaubert, Madame Bovary. Elle se demandait s'il n'y aurait pas eu moyen, par d'autres combinaisons du hasard, de rencontrer un autre homme. Et elle cherchait à imaginer quels eussent été ces événements non survenus, cette vie différente, ce mari qu'elle ne connaissait pas. Tous, en effet, ne ressemblaient pas à celui-là. Il aurait pu être beau, spirituel, distingué, attirant, tels qu'ils étaient sans doute ceux qu'avaient épousés ses anciennes camarades de couvent. Que faisait-elle maintenant ? La ville, avec le bruit des rues, le bourdonnement des théâtres et les clartés du bal, elle savait des existences où le cœur se dilate, où les sens s'épanouissent. Mais elle, sa vie était froide comme un grenier dont la lucarne est au nord, et l'ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans l'ombre à tous les coins de son cœur. Elle se rappelait les jours de distribution de prix où elle montait sur l'estrade pour aller chercher ses petites couronnes. Avec ses cheveux en tresse, sa robe blanche et ses souliers de prunelles découverts, elle avait une façon gentille, et les messieurs, quand elle regagnait sa place, se penchaient pour lui faire des compliments. La cour était pleine de calèches, on lui disait adieu par les portières, le maître de musique passait en saluant avec sa boîte à violon. Comme c'était loin, tout cela. Comme c'était loin. Elle appelait Djali, la prenait entre ses genoux, passait ses doigts sur sa longue tête fine et lui disait « Allons, baisez maîtresse, vous qui n'avez pas de chagrin. » Puis, considérant la mine mélancolique du svelte animal qui bâillait avec lenteur, elle s'attendrissait et, le comparant à elle-même, lui parlait tout haut comme à quelqu'un d'affligé que l'on console. Il arrivait parfois des rafales de vent, brises de la mer, qui, roulant d'un bond sur tout le plateau du pays de Caux, apportaient jusqu'au loin dans les champs une fraîcheur salée. Les joncs sifflaient à ras de terre et les feuilles des hêtres bruissaient en un frisson rapide, tandis que les cimes, se balançant toujours, continuaient leur grand murmure. Emma serrait son châle contre ses épaules et se levait. Dans l'avenue, un jour vert rabattu par le feuillage éclairait la mousse rase qui craquait doucement sous son pied. Le soleil se couchait, le ciel était rouge entre les branches, et les troncs pareils des arbres plantés en ligne droite semblaient une colonnade brune se détachant sur un fond d'or. Une peur la prenait. Elle appelait Djali, s'en retournait vite à Tostes par la grande route, s'affaissait dans un fauteuil et de toute la soirée ne parlait pas. Mais, vers la fin septembre, quelque chose d'extraordinaire tomba dans sa vie. Elle fut invitée à Vaubyessard, chez le marquis d'Andervilliers. Secrétaire d'État sous la Restauration, le marquis, cherchant à rentrer dans la vie politique, préparait de longue main sa candidature à la Chambre des députés. Il faisait l'hiver de nombreuses distributions de fagots et au Conseil général réclamait avec exaltation toujours des routes pour son arrondissement. Il avait eu, lors des grandes chaleurs, un abcès dans la bouche dont Charles l'avait soulagé comme par miracle en y donnant à point un coup de lancette. L'homme d'affaires envoyé à Tostes pour payer l'opération conta le soir qu'il avait vu dans le jardinet du médecin des cerises superbes. Or, les cerisiers poussaient mal à Vaubyessard. Monsieur le marquis demanda quelques boutures à Bovary, se fit un devoir de l'en remercier lui-même, aperçut Emma, trouva qu'elle avait une jolie taille et qu'elle ne saluait point en paysanne, si bien qu'on ne crut pas au château outrepasser les bornes de la condescendance, ni d'autre part commettre une maladresse en invitant le jeune ménage. Un mercredi à 3 heures, monsieur et madame Bovary, montés dans leur boc, partirent pour la Vaubyessard, avec une grande malle attachée par derrière et une boîte à chapeau qui était posée devant le tablier. Charles avait de plus un carton entre les jambes. Ils arrivèrent à la nuit tombante comme on commençait à allumer les lampions dans le parc afin d'éclairer les voitures. Le château, de construction moderne à l'italienne avec 2 ailes avançant et 3 perrons, se déployait au bas d'une immense pelouse où paissaient quelques vaches entre des bouquets de grands arbres espacés, tandis que des bannettes d'arbustes, rhododendrons, seringas et boules de neige bombaient leurs touffes de verdures inégales sur la ligne courbe du chemin sablé. Une rivière passait sous un pont. À travers la brume, on distinguait des bâtiments à toit de chaume éparpillés dans la prairie, que bordaient en pente douce 2 coteaux couverts de bois et par derrière, dans les massifs, se tenaient sur 2 lignes parallèles les remises et les écuries, restes conservés de l'ancien château démoli. Le boc de Charles s'arrêta devant le perron du milieu. Des domestiques parurent. Le marquis s'avança et, offrant son bras à la femme du médecin, l'introduisit dans le vestibule. Il était pavé de dalles en marbre très haut, et le bruit des pas avec celui des voix y retentissait comme dans une église. En face montait un escalier droit, et à gauche une galerie donnant sur le jardin conduisait à la salle de billard, dont on entendait dès la porte caramboler les boules d'ivoire. Comme elle la traversait pour aller au salon, Emma vit autour du jeu des hommes à figure grave, le menton posé sur de hautes cravates, décorés tous et qui souriaient silencieusement en poussant leur queue. Sur la boiserie sombre du lambris, de grands cadres dorés portaient au bas de leur bordure des noms écrits en lettres noires. Elle le lut: Jean-Antoine d'Angervilliers, divers Bonville, comte de Vaubyessard et baron de la Fresnaye, tué à la bataille de Coutras le 20 octobre 1587. Et sur un autre, Jean-Antoine Henri Guy d'Ambervilliers de la Vaubyessard, amiral de France et chevalier de l'ordre de Saint-Michel, blessé au combat de la Hougue Saint-Vaast le 29 mai 1692, mort à la Vaubyessard le 23 janvier 1693. Puis on distinguait à peine ce qui suivait, car la lumière des lampes, rabattue sur les tapis verts du billard, laissait flotter une ombre dans l'appartement. Brunissant les toiles horizontales, elle se brisait contre elles en arêtes fines, selon les craquelures du vernis. Et de tous ces grands carrés noirs bordés d'or sortaient çà et là quelques portions plus claires de la peinture, un front pâle, 2 yeux qui vous regardaient, des perruques se déroulant sur des épaules poudrées, des habits rouges, ou bien la boucle d'une jarretière en haut d'un mollet rebondi. Le marquis ouvrit la porte du salon. Une des dames se leva, la marquise elle-même, vint à la rencontre d'Emma, et la fit s'asseoir près d'elle, sur une causeuse, où elle se mit à lui parler amicalement, comme si elle la connaissait depuis longtemps. C'était une femme de la 40aine environ, à belles épaules, à nez busqué, à la voix traînante, et portant ce soir-là, sur ses cheveux châtains, un simple fichu de guipure qui retombait par derrière en triangle. Une jeune personne blonde se tenait à côté dans une chaise à dossier long. Et des messieurs qui avaient une petite fleur à la boutonnière de leurs habits causaient avec les dames tout autour de la cheminée. À 7 heures, on servit le dîner. Les hommes plus nombreux s'assirent à la première table dans le vestibule et les dames à la seconde dans la salle à manger avec le marquis et la marquise. Emma se sentit en entrant enveloppée par un air chaud, mélange du parfum des fleurs et du beau linge, du fumet des viandes et de l'odeur des truffes. Les bougies des candélabres allongeaient des flammes sur les cloches d'argent, les cristaux à facettes couverts d'une buée mate se renvoyaient des rayons pâles. Des bouquets étaient en ligne sur toute la longueur de la table et dans les assiettes à large bordure, les serviettes arrangées en manière de bonnet d'évêque tenaient entre le bâillement de leurs 2 plis chacune un petit pain de forme ovale. Les pâtes rouges des homards dépassaient les plats. De gros fruits dans des corbeilles à jour s'étageaient sur la mousse. Les cailles avaient leurs plumes, des fumets montaient. Et en bas de soie, en culotte courte, en cravate blanche, en jabot, grave comme un juge, le maître d'hôtel, passant entre les épaules des convives, les plats tout découpés, faisait d'un coup de sa cuillère sauter pour vous le morceau qu'on choisissait. Sur le grand poêle de porcelaine à baguette de cuivre, une statue de femme drapée jusqu'au menton regardait immobile la salle pleine de monde. Madame Bovary remarqua que plusieurs dames n'avaient pas mis leurs gants dans leurs verres. Cependant, au haut bout de la table, seule parmi toutes ces femmes, courbée sur son assiette remplie et la serviette nouée dans le dos comme un enfant, un vieillard mangeait, laissant tomber de sa bouche des gouttes de sauce. Il avait les yeux éraillés et portait une petite queue enroulée d'un ruban noir. C'était le beau-père du marquis, le vieux duc de La Verdière, l'ancien favori du comte d'Artois, dans le temple des parties de chasse à Vaudreuil, chez le marquis de Conflans, et qui avait été, disait-on, l'amant de la reine Marie-Antoinette, entre messieurs de Coigny et de Lauzun. Il avait mené une vie bruyante de débauche, pleine de duels, de paris, de femmes enlevées, avait dévoré sa fortune et effrayé toute sa famille. Un domestique derrière sa chaise lui nommait tout haut dans l'oreille les plats qu'il désignait du doigt en bégayant. Et sans cesse les yeux d'Emma revenaient d'eux-mêmes sur ce vieil homme à lèvres pendantes, comme sur quelque chose d'extraordinaire et d'auguste. Il avait vécu à la cour et couché dans le lit des reines. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc la suite de ce roman Madame Bovary que nous retrouverons la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.